Vous êtes sur RTL.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Bonjour à tous, bonne fin de matinée. Bienvenue dans RTL vous régale. Nous sommes de retour.
Qu'est-ce que vous entendez exactement par « vous êtes de retour »
On va vous l'expliquer dans les prochaines minutes, vous allez voir. L'émission des terroirs, des spécialités culinaires, du patrimoine. Une émission qui met à l'honneur les artisans, les producteurs, les restaurateurs. Et aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de la forêt de Brocéliande. Car oui, elle existe cette forêt de Brocéliande. Alors les ribots, galettes, saucisses, cidre, chou chêne, andouillettes de Guéméné. On va tout vous raconter. Petit rappel quand même, il est important. Tous les candidats qui seront à l'antenne dans cette émission aujourd'hui, c'est-à-dire dans le défait frigo, par exemple aussi, remporteront 4 places de cinéma pour aller voir le film Kaamelott sorti en salle hier. Ah, c'est un film très attendu, évidemment tiré de la série du même nom de Alexandre Astier, avec un casting de rêve. Il y a Alain Chabat, il y a Géraldine Nakache, il y a Christian Clavier. Enfin, c'est
et
un casting
de l'avant-première, hein.
Absolu. Ça, c'est parti pour faire le record de l'été, ouais, et peut-être même de l'année. On va vous tenir au courant. Y a des scènes qui sont déjà cultes. On va vous en parler dans cette émission. Avec moi, autour de cette table, pour entrer en forêt de Brocéliande, entrer en Brocéliande, j'ai envie de dire, le chevalier Petit-Demange.
Bonjour.
Enguerrand, Jean-Sébastien.
Je peux vous apporter une précision en tant que chevalier ?
Ouais, dites-moi.
C'est une andouille de Guéméné.
J'ai dit quoi ?
Car vous ne m'avez pas écouté hier.
J'ai dit andouillette ?
Oui.
Ah, autant pour moi.
Car l'andouillette
se mange froide.
Chaude, l'andouillette.
Donc j'ai toujours un problème avec ça. Donc l'andouille, c'est chaud. Non. L'andouille, c'est froid. Voilà. L'andouillette, c'est chaud.
Voilà.
On y arrive. Je peux vous faire une confidence ? Je ne mange ni l'une ni l'autre.
Je déteste ça.
Mais c'est vrai, en plus, je déteste ça.
Eh ben, on est bien.
Comment va la gente dame ?
Ben écoute, elle va plutôt pas mal.
Louise Petit-Renaud.
Elle est en forme.
Ça vous fascine, l'univers des chevaliers, etc. ?
Moi, ce qui me fascine le plus, c'est la galette saucisse.
Vous nous en parlerez d'ailleurs dans quelques minutes.
Avec plaisir.
Nous partons donc, vous l'avez compris, sur les terres de Kaamelott. Jean-Sébastien, s'il y a bien un site magique en France, c'est Brocéliande.
Entre le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine, faut pas la chercher hein, sur une carte. La forêt de Brocéliande, elle n'existe pas. Il faut aller la chercher sous le nom de forêt de Pimpon. Et c'est le décor des légendes arthuriennes. L'enchanteur Merlin, les fées Morgane et Viviane. Il côtoie les chevaliers de la Table Ronde sur 9000 hectares d'arbres feuillus, résineux, de landes, de mégalithes et d'étangs. C'est une invitation à partir dans un monde envoûtant, sous les ombrages des chênes centenaires, des pins, des rochers de schiste vert et des eaux changeantes. Des étangs reflètent les ombres des druides, des chevaliers et des magiciens. Alors quand on part à pied, on croise parfois l'ombre du valeureux Lancelot, celle de l'enchanteur Merlin, le fameux conseiller du roi Arthur. Ananfrat Urbath Bethet.
C'est-à-dire les paroles s'affichent en bas de votre écran.
Ça, c'est la formule de Merlin, ça.
Oui.
C'est la formule.
Qui veut dire ?
Je n'en ai strictement aucune idée.
J'en prends volontiers un peu d'andouille.
Il n'y a pas de traduction à cette affaire-là.
D'accord.
Oui.
Il y a la ravissante Viviane, la dame du lac, la malheureuse Morgane. Alors attention, en arrivant au Val sans retour, Morgane a enfermé là-bas son amant infidèle pour l'éternité. Il faut faire gaffe quand on va au Val sans retour. Parce que le sortilège perdure aujourd'hui pour les hommes infidèles. Donc vous avez intérêt à être sûr de vous, si vous y allez. Miroir aux fées, trône de Merlin dans le rocher, chaque pas devient initiatique. L'esprit de la Dame Blanche hante le château de Tressesson, tandis que le tombeau de Merlin, souvent environné de vœux, fait de la concurrence à la fontaine de Jouvence. Car oui, dans la forêt de Brocéliande, on peut atteindre la jeunesse éternelle.
Voilà ce que ça donne quand on petit déjeune à la salse pareille. La galette saucisse.
Alors, est-ce qu'on en trouve dans la forêt ? Est-ce que Merlin en mangeait ?
Faut bien regarder.
Je sais, peut-être.
Faut bien regarder.
La fameuse galette saucisse. Pour ceux qui ont un petit doute, c'est bien la saucisse de porc grillé qui est roulée dans une galette de sarrasin froide. Elle est réunie deux produits de la gastronomie bretonne et rennaise, parce que la saucisse de porc, c'est de Rennes. Figurez-vous, c'est un encas en Bretagne, pour ne pas dire street food.
Voilà.
Hein, parce que j'aimerais pas froisser Jean-Sébastien de si bon matin. C'est populaire, on la consomme à l'occasion de fêtes, de marchés, dans les stades de foot. les supporters du Stade Rennais apparemment ont toujours leur galette saucisse. Voilà, là je vois, c'est bien le Stade Rennais, écoutez. Et c'est une vraie tradition. Il existe même une association de sauvegarde de la galette saucisse bretonne qui compte quand même 3500 adhérents. C'est quand même pas rien.
Moi, je trouve ça capital.
Bah, c'est très important.
Mais bien sûr.
Et ça sert à préserver la vraie, la bonne, l'unique galette saucisse bretonne à travers le monde.
Oui, mais le plus important dans tout ça.
Ah, vous voulez la petite info?
Ben, j'en voudrais l'info troisième type.
Eh bien, écoutez, figurez-vous que le 1er juillet dernier, le record du monde de la plus longue galette saucisse a été réalisé avec 53 mètres.
Ils ont battu le dernier record de
18 mètres, c'était en 2019. Ce sont des Bretons, ils sont fiers de l'être.
Ah là, que d'émotion!
Je les félicite.
18 mètres de plus.
53 mètres de galette saucisse.
C'est énorme. On félicite les Bretons, évidemment. Et
comment on fait une saucisse de 53 mètres?
Bah, on les colle.
On
les colle les unes après les autres.
Ah, c'est comme ça qu'ils procèdent?
Bah oui.
D'accord. Ah. Dans la playlist d'RTL vous régale ce matin, Justin Wellington. Il colle les saucisses.
Il colle les saucisses.
Les assemble.
Un petit train de saucisses.
Je vois pas le record.
Bah, 53 mètres de saucisses collées.
Ouais.
Non, de galettes.
Bah, moi, il y a un truc, la semaine prochaine, on va en faire 65 mètres.
Bah, ouais.
Si c'est juste mettre des saucisses bout à bout, hein, ça.
Après, je peux lancer Vanessa Paradis aussi, si vous voulez. Dans RTL vous régale, Flo de la Vega. Et Michael Field. Avec Moonlight Shadow, RTL vous régale, c'est en direct tous les jours de l'été de 11h à 12h30.
RTL vous régale.
Jean-Michel Zeka. Passez une bonne matinée sur RTL.
RTL, toujours avec vous. 11h, 12h30.
RTL vous régale.
Escale en Bretagne, dans la forêt de Brocéliande aujourd'hui, Louise, dans les évidences de cette région, il y a le fameux...
Les ribots.
Bien sûr, qu'on les trouve ribots. Uniquement là-bas d'ailleurs.
Exactement, il est aussi appelé le babeurre ou le lait de baratte. Est-ce que vous savez pourquoi?
Bah parce qu'on baratte, c'est la baratte.
C'est pas mal.
C'est la cuve, c'est le récipient.
Exactement.
Dans lequel on...
Parce que quand on baratte la crème pour en faire du beurre, il y a un petit liquide blanchâtre qui apparaît. Et c'est, ça s'appelle le petit lait, et c'est ça, le lait ribot, la ribote en breton, qui veut dire la baratte, donc le lait ribot.
D'accord.
Vous l'avez.
Voilà.
Aujourd'hui, il se fabrique avec du lait crémé pasteurisé auquel on ajoute des ferments, donc c'est un peu le même principe que pour faire un yaourt. Vous connaissez le lait ribot? C'est particulier, hein, c'est un petit goût onctueux, doux, acidulé. En Bretagne, normalement, on le déguste tel quel, avec des crêpes, des galettes. Aujourd'hui, on l'utilise aussi en pâtisserie pour rendre les gâteaux encore plus moelleux ou alors pour alléger les desserts. Mais on peut aussi s'en servir en cuisine. On peut faire des soupes froides avec, en plus c'est bien de saison en ce moment, ou des smoothies en l'additionnant à des fruits rouges. Et on peut même... faire mariner des viandes avec, parce que ça va attendrir la viande.
Mais donc ça marche pas mal, ça. Ouais.
Il est pas mal, ce lait ribot.
Alors, si dans la cuisine bretonne, il y a un incontournable, c'est le beurre.
Oui. Et le beurre comment?
Le beurre de micelle.
Voilà. Bah, c'est la Bretagne. Alors, est-ce que vous savez pourquoi c'est la Bretagne?
Bah, parce que le lait.
Ah, pas mal. Le beurre, c'est avant tout du lait et notamment sa crème. Pourquoi vous rigolez?
Non, mais parce que ça me paraît.
Mais moi, bien. J'adore apprendre des choses, je trouve ça sympa.
Mais on est là pour ça.
Voilà, la Bretagne, c'est une grande région productrice de lait. Et autrefois, au Moyen-Âge, elle était exemptée de taxes sur le sel. Donc, ils avaient, comme il y avait beaucoup de marais salants en Bretagne, ils avaient beaucoup de sel. Et comme le sel est un excellent conservateur pour les produits, bah, les Bretons.
Ils l'ont associé au beurre.
Exactement, c'est pour ça que. Et puis surtout, c'était payant partout ailleurs, le sel, à ce moment-là. Donc, ils se sont gardés leur beurre de micelle et c'est devenu breton.
C'est surtout que la Bretagne n'était pas la France à l'époque, mmh. Parce que c'était le duché indépendant. Et Anne de Bretagne, au rachat, à fusion, elle a négocié justement le fait que la gabelle ne s'impose pas en Bretagne. Et ça, ça a été hyper important.
La gabelle qui était l'impôt sur le sel.
L'impôt sur le sel, absolument. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a épaté le monde entier de l'époque, que les Bretons mangent autant de beurre salé. Il y a même un médecin italien qui a écrit « Comme la pie mange la poire, le breton
mange le beurre.
Oh, le cliché.
Mais c'est vrai, c'est bien. C'est bien.
Et ce, en ne respectant aucun précepte de la religion.
Mais non.
Puisqu'ils en consomment avec le poisson le vendredi.
Les hérétiques.
Ben, c'est ça
à l'époque.
C'était un produit carné. Hein.
Forcément.
C'est un produit carné, le beurre.
Alors, c'est pas carné du tout.
Ça nous donne soif, ce petit beurre.
Ouais, un petit coup de cidre là-dessus, on n'est pas contre.
Le cidre de Bretagne, c'est une boisson obtenue à partir de la fermentation de jus de pomme. Et le cidre breton, c'est le seul avec le cidre de Normandie à bénéficier d'une IGP indication géographique protégée. La Bretagne, c'est produit quand même 40% du cidre en France. C'est la deuxième région cidricole française. Et les alentours de Rennes, il y a les trois plus grandes cidreries bretonnes. Vu quand même, on fait le lien avec la forêt. On n'est quand même pas très loin de Rennes. Alors, est-ce que vous saviez qu'au 19e siècle, c'était la deuxième boisson la plus consommée en France ?
Il y a des chiffres qui le prouvent.
Après le vin. Et alors, il y a surtout un chiffre que j'adore, mais qui est fantastique. En 1910, la plus grande consommation de cidre enregistrée se trouve à Rennes, avec...
Attendez, accrochez-vous bien. À l'époque, 1910, hein, c'est
1910.
Pas non plus... Voilà.
400 litres par an et par habitant.
Non mais faut s'imaginer, les gars s'envoyaient 400 litres de cidre.
Bah oui, mais c'est super.
C'est... Ça fait plus d'un.
On peut dire que les Bretons apprécient.
Ça fait quand même plus d'un litre par jour par habitant.
Tout ça s'explique aussi par le. Les consommations de vin étaient absolument considérables au 19e et au début du 20e, parce que l'eau était insalubre. On buvait pas d'eau en France. Faut le savoir, ça.
Un temps béni des dieux.
Non, non. Au tempora, au
mores. Exactement. Bon, si vous voulez gagner des cadeaux absolument somptueux, vous avez frappé à la bonne porte parce que sur RTL, nous vous proposons le grand jeu de l'été jusqu'à la fin de cette semaine. C'est-à-dire jusqu'à demain, ce seront vraiment les tout derniers cadeaux à gagner. Aujourd'hui, on met en jeu un chèque de 1000 euros ou une semaine en famille vers de nouvelles expériences de vacances dans un des 100 villages VVF en France. Pour jouer avec nous tout à l'heure aux alentours de midi moins 5, vous tentez votre chance en appelant tout de suite le 3210 50 centimes la minute ou en envoyant RTL par SMS au 74 975 centimes par SMS. Un chèque de 1000 euros ou une semaine de vacances en famille dans un village VVF. Je vous souhaite bonne chance.
Hey yo, big wave. Turn the mic on. Small time alongside JW.
My bestie and your bestie sit down by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go, Ane. Chucky Mofina, Anane, Chucky Mofina, Ane. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. Nice cool breeze and big palm trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now. I go, Ane. Chucky Mofina, Anane, Chucky Mofina, Ane.
Okay, your mama, Nguele. Step on the dancing floor. Winding, DJ rewinding, take it to the island way. Get your baby mama, put on your dancing shoes. One drop it, pop it low now, take you to the max now. Jam in this small jam way, jam in this small jam way.
My bestie and your bestie, dancing by the fire. Your bestie says she want parties, so can we make these flames go higher? Talking about hey now.
Straight up, right hoots in mama. Make we party non-stop in a island banda. Swing those hips and back it up to me ragga. A chance for party ladies, do the doggy doggy. I'm drumming island reggae, rapping blue, green and yellow. Me tapping on me beat, make a slow wine for me baby. Speakers pumping, people jumping. We drumming the island way.
Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, let me two by two. And now we're shining bright like diamonds. Talking about
hey now.
Backward.
We go
left, left, we go right, right. Turn it around and forward.
Wind up, go down again.
Wind up, go down, wind up, go down. Twist your body backward.
Twist it back.
We go left, left, we go right, right. Turn it around and forward.
My bestie and your bestie dancing by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make these flames go higher?
Talking about hey now,
hey now,
hey now,
hey now.
I go.
extrait de la compilation des artistes RTL 2021, les 40 tubes de l'été, sur un double CD, Justin Wellington et Small Jam, Aiko, Aiko sur RTL.
RTL vous régale.
L'alcool.
RTL vous régale.
Avec Jean-Michel Zeka.
On vous souhaite une très bonne matinée avec nous dans RTL vous régale. Nous partons ce matin dans la forêt de Brocéliande. Alors fermez les yeux. Vous entendez ?
Vous entendez quelque chose ?
Il y a un type avec une voix de con qui vient de dire « Vous entendez quelque chose ?»
Ah bah ouais. Quelque chose de complètement informel. Hein.
C'est pas possible d'être largué à ce point-là.
C'est parti pour être un des gros succès de cet été. Kaamelott, le film d'Alexandre Astier. Mais c'est vrai que la forêt de Brocéliande, c'est un imaginaire absolument formidable.
C'est très fort, je vous le disais tout à l'heure, hein, Brocéliande n'existe pas dans la géographie officielle. Donc forcément, on part dans l'imaginaire. Et le patrimoine qu'on va chercher là-bas est avant tout immatériel. C'est dans cette contrée forestière de la forêt de Pimpon que se niche tout cet imaginaire. C'est une invitation en fait à retrouver son âme d'enfant. Brocéliande a servi de décor aux aventuriers de la table ronde. Le petit village de Pimpon, il est tout mignon. C'est un village aux maisons de granit qui permet de plonger immédiatement dans l'ambiance parce que on chemine de la rue du roi Arthur à celle de la fée Viviane. Au bord de l'étang se dresse une imposante abbaye du XIIIe siècle, témoignage de la puissance et de la prospérité du monastère bénédictin d'origine. Le long de l'artère principale du village s'alignent des boutiques d'un genre un peu particulier parce que on peut y acheter des épées, des figurines d'elfes et de korrigans, des vêtements médiévaux. Je peux vous assurer que quand vous ressortez de là, c'est quand même belle tenue médiévale, ben vous surprendrez personne.
Faut le voir chez soi, hein. Ça alors, se donne toujours un peu.
Vous avez des jeux de runes et toutes sortes de livres et d'accessoires ésotériques. En fait, c'est tout un folklore.
Ouais.
Alors, à Concoré, un peu plus loin, là, c'est le sombre château de Compère qui veille aux légendes au bord de son étang. Un château de schiste rouge qui a été construit au XIIIe. Il a évidemment subi les vicissitudes de l'histoire avant d'être restauré au XIXe. Et c'est là-bas que depuis plus de 30 ans, on a établi le centre de l'imaginaire arthurien. C'est une association de passionnés érudits qui a à cœur de faire comprendre ces histoires merveilleuses qui sont d'origine celte, qui sont arrivés jusqu'à nous depuis le Moyen-Âge. Et quand on est une fois imprégné de cet imaginaire, ben on est mûr pour partir en quête de ces sites légendaires. Je vous le disais, il y a la fontaine de Jouvence. C'est un ancien site de culte druidique où lors du solstice d'été, les bébés étaient lavés et inscrits sur un registre. Ça vous rappelle pas
Ça me rappelle un truc, ouais.
Un truc, hein. Ben c'était druidique tout
Qu'est-ce qu'on faisait avec les bébés non inscrits?
Alors justement, si on ne pouvait pas amener son bébé l'année de sa naissance, on l'amenait l'année d'après.
D'accord.
Et du coup, le bébé gagnait un an.
Il n'avait plus le même âge.
Bah oui, forcément, d'où le concept de jouvence.
C'est génial.
Alors si vous aspirez à la jeunesse éternelle, comme tout un chacun bien sûr, hein, on vous explique dans un Le saviez-vous du guide du Routard Bretagne Nord, la procédure à suivre.
Comment qu'on fait ?
Il faut venir au solstice d'été.
Voilà.
À minuit pile.
Faut être pieds nus.
Pieds nus. Il faut boire un bol d'eau de la fontaine et avoir été parfait tout au long de sa vie. Donc c'est pas pour tout
c'est
le monde
gagné.
Hein, c'est à faire ça.
Bah, jusqu'à pieds nus avec le bol d'eau, il n'y avait pas de souci.
Alors attendez, minuit pile, c'est déjà compliqué.
Pourquoi ?
Eh ben parce que c'est minuit sur quelle base ?
Sur quel méridien, vous voulez dire ?
Non, c'est minuit sur la lune, c'est minuit sur le soleil.
Ah oui, évidemment, là. C'est... Oh, vous pinaillez !
Ah bah,
vous
j'étais là, je m'étais fait les pieds, en plus j'avais mon bol d'eau, il faut qu'il complique l'affaire.
Alors vous avez aussi le chêne à guillotin d'une circonférence de 10 mètres. Il aurait été... allez, on va dire qu'il a autour de 1000 ans, ce chêne.
Guillotin comme le...
Oui, mais ça n'a
rien à voir.
Rien du tout.
D'accord.
En 1791, il aurait abrité en son creux l'abbé Guillotin. Vous voyez que ça n'a rien à voir.
Rien à voir.
Un prêtre réfractaire, poursuivi par les révolutionnaires. Une araignée aurait alors tissé une toile devant l'entrée, dissuadant les poursuivants de le chercher à cet endroit. C'est comme pour toutes les légendes, il y a plusieurs versions de fées qui existent. Il y en a partout comme ça. Quand on se balade dans la forêt de Pimpon, quand on plonge dans Brocéliande, vous allez en trouver partout. Et c'est ça qui fait la magie de cette histoire.
Et c'est ça qui fait qu'il ne faut pas abuser du chouchen. On va donner un petit coup de fil à Olivier Chifolo. Il est le patron d'un restaurant. On ne va absolument pas parler de cuisine bretonne en plus. Il est à Becherel et on va parler de cuisine créole avec vous, Olivier Chifolo. Bonjour.
Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous.
Bienvenue, bonjour. Bienvenue sur RTL. C'est vrai que vous auriez pu donner dans la cuisine bretonne, mais il n'y avait pas d'offre dans le type de restauration que vous faites, c'est-à-dire dans la cuisine créole. Du coup, ça, c'est devenu une vraie bonne idée.
Absolument, absolument.
Mais ce qui s'explique aussi par le fait que votre femme n'est pas étrangère au concept.
Elle est un tout petit peu guadeloupéenne.
Voilà, c'est un plus, évidemment. C'est elle la chef en cuisine, en fait.
Absolument, c'est elle la chef de cuisine, oui, tout à fait.
Et donc, vos spécialités, c'est quoi? Racontez-nous.
Alors, les bases, donc, nous travaillons, effectivement, nous offrons une cuisine antillaise, une cuisine créole, d'accord, à base de produits frais. Donc, toujours, on a une petite carte, toujours faite de deux entrées, de deux plats, de fromage.
Là, aujourd'hui, par exemple.
De dessert. Aujourd'hui. Alors, on a les acras de morue, qui sont la spécialité maison, qui sont, eux, là, toute l'année.
Qu'est-ce que j'adore
ça, moi aussi.
C'est que dans le milieu, on m'appelle Jean-Michel Zacra. Je vous assure, c'est ma passion.
Moi aussi, j'adore ça. Faut pas qu'il soit trop gras, hein.
Non, l'idée déjà c'est d'avoir de bons produits de base. On a la chance, nous, d'être dans une région, effectivement, on a plein de bons producteurs. Alors on a des œufs bio pour les fabriquer, on a de la farine qui est faite localement, du lait bio, de la morue qui est préparée par un poissonnier sur Saint-Malo, les ciboulettes et persil, alors soit de notre jardin, soit de la maraîchère avec laquelle on travaille à côté. Donc déjà de bons produits, ça donne déjà de bonnes choses. Et après, une bonne huile de friture. Et
surtout une bonne température. Faut pas que ce soit sous la température idéale, parce que sinon, ça devient gras, ça se gorge d'huile.
180 degrés, idéalement. Et du coup, voilà, juste ce cuisson.
Absolument.
Voilà.
Olivier, quand on parle de cuisine antillaise, moi, je pense au rougail. Est-ce que vous en faites?
Alors, le rougail, oui, tout à fait. On fait plus facilement des carines. On trouve que la complexité aromatique est plus sympa que le rougail. Un peu plus complet. Donc, voilà. Mais on en fait ponctuellement.
On peut rappeler ce que c'est, hein, le rougail?
Bien sûr. Alors, comme son nom l'indique, le rougail, il y a de l'ail, évidemment. C'est la base, en fait.
Et l'ail, c'est la vie.
Voilà.
L'ail, c'est absolument, je confirme.
Tomate.
Et puis voilà. Puis après, on peut le faire avec des saucisses. Nous, en Bretagne, on fait pousser des cochons à tous les coins de rue. Donc, on peut faire avec.
J'aime bien cette formule.
Ouais, donc voilà, on peut faire avec de la saucisse accompagnée d'un bon riz basmati. Voilà. Donc, plus ou moins pimenté selon les goûts.
Ouais, bah oui, c'est ça, parce que ça reste quand même une cuisine un peu haute.
Non, l'idée, nous, de proposer, on garde le côté goût, mais le côté piquant, on le met toujours à part et on propose aux gens de créoliser, d'antillaniser à leur envie, quoi.
Créoliser comme vous le voulez, ça s'appelle La Part des Anges. C'est à Becherel. Olivier Chifolo est le patron. La chef est en cuisine, elle s'appelle.
Mais Chifolo.
Et ben voilà, embrassez-la pour nous et on vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.
À bientôt.
RTL vous régale. Magasin.
RTL vous régale jusqu'à 12h30. Jean-Michel Zeka.
Il fait une chaleur dans ses côtes de maille, je vous raconte pas.
Je vois trouble, c'est le manque de gras.
Et alors ça ne va pas à tout le monde, hein, je dois vous le dire. Les petits challenges de Louise Petit-Renaud. Vous êtes prête, Louise?
Oui.
Brocéliande ou pas, il faudra relever quelques défis ce matin. J'espère que la magie va opérer une nouvelle fois.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe-t-il aujourd'hui?
Mathieu est à Chartres. Il se demande s'il existe une astuce pour utiliser le jus des pois chiches.
Alors c'est bien parce qu'on répète, hein, on ne jette rien, on essaye toujours de trouver des solutions.
J'imagine qu'il parle de l'eau qui est dans la boîte de conserve.
J'imagine aussi, oui.
Je pense pas que ce soit le pois chiche.
Après, ça donne assez peu de jus, le pois chiche, on est d'accord.
Non, c'est de l'eau, effectivement, à mon avis. Alors vous pouvez l'utiliser, Mathieu, et pour en faire une mousse au chocolat. Et ça va remplacer en fait les blancs des œufs, parce que ce jus, en tout cas, taux de pois chiche, se monte aussi bien que des blancs en neige, figurez-vous.
Ça goûte le pois chiche, du coup,
non,
votre mousse
pas.
Au chocolat. Ça goûte
goûtez,
pas.
D'accord. Et en plus, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que c'est 100% vegan.
Évidemment. Justine est à Vitré, elle adore le chou-fleur, mais elle ne sait plus trop comment le cuisiner, on dirait un défi frigo.
Oui, c'est vrai. Justine, moi ce que j'aime faire, c'est le faire en papillote, donc le chou-fleur au four, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe?
Mais rien du tout.
Ah,
non, nous communiquons.
C'est simplement que je vous mets des répliques de Kaamelott, comme ça vous n'avez rien compris depuis le début, mais je ne fais que ça depuis le début. Quand je vous dis c'est pas faux.
Merci Jean-Sébastien.
Voilà. Alors Justine, revenons à le chou-fleur. Donc vous prenez de l'alu, vous mettez votre chou-fleur, vous mettez une cuillère de curry, un peu plus si vous aimez que ce soit bien relevé, de l'huile d'olive, de l'ail, sel, poivre. Vous fermez tout ça, direction le four à 180 degrés pendant 1h30. Vous allez l'ouvrir et vous allez pouvoir limite le détacher à la main tellement il va être fondant votre chou-fleur.
Fabienne à Aurillac.
J'adore Aurillac.
Vous vous souvenez de Confession intime ?
Oui.
Fabienne nous dit mes radis sont tout mous. Que faire ?
Pourquoi ?
Faut pas les jeter parce que nous on est pour la cuisine anti-gaspi.
Exactement. Et je n'ai pas compris la votre blague, mais c'est
non,
pas
mais
grave.
Non, mais c'est pas grave.
Alors, donc vous les jetez pas, vous
au allez tempora au mores.
Bon, Fabienne, écoutez-moi plutôt que d'écouter les garçons. Vous allez faire les tremper quelques heures dans un grand volume d'eau froide additionné de vinaigre. Et vous allez voir que ce mélange va redonner un aspect croquant à vos crudités. Donc ça fonctionne aussi pour les autres légumes.
Voilà. Et donc si vous aussi vous vous posez des questions, si vous aussi vous avez envie de défier Louise.
Ou si vous avez envie de partager aussi vos astuces.
Ben, n'hésitez pas, vous envoyez par SMS le mot régal suivi de votre message au 64 900. C'est vrai, c'est une bonne idée, vous faites bien de le dire. Partagez vos astuces. Ouais. Vous avez des petits tours, des astuces de grand-mère, etc.
3210,
voilà, n'hésitez pas, 3210 par téléphone, venez nous en parler. Dans un instant, l'ambassadeur d'RTL, vous régale, est une ambassadrice.
Ouais.
On vous en parle dans quelques instants. Ce sera juste après cette chanson de Vanessa Paradis. Vous écoutez RTL, vous régale, comme tous les jours de l'été, 11h, 12h30, et à l'occasion de la sortie de Kaamelott, nous sommes en forêt de Brocéliande.
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
RTL vous régale et Vanessa Paradis, il y a, je vous le disais, elle est l'ambassadrice d'RTL vous régale dans un instant. On va parler de la forêt de Brocéliande et le signe Le Réveil des Sorcières, un roman justement qui traite de magie noire et qui se déroule en partie dans cette forêt. On en parle avec notre invitée Stéphanie Janicot dans quelques minutes.
11h, 12h30, RTL vous régale.
D'alcool.
RTL. 11h, 12h30, RTL vous régale.
En forêt de Brocéliande, ce matin, dans RTL, vous régale à l'occasion de la sortie de Kaamelott, le film. Bonjour Stéphanie Janicot.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Je rappelle que vous êtes écrivaine, que vous êtes l'auteur de La Mémoire du Monde aux éditions Albin Michel, mais que vous signez surtout Le Réveil des Sorcières, ce roman qui traite de la magie noire et qui se déroule en partie, justement, dans cette forêt de Brocéliande. Vous, vous êtes née à Rennes.
Oui.
On peut dire que vous avez passé votre enfance là-bas, dans cette campagne, dans la forêt.
On peut absolument le dire.
Voilà, et dans un village qui appartient en plus à la communauté du pays de Brocéliande.
Voilà, il y a une communauté de communes, comme dans beaucoup de régions de France, voilà. Et la mienne s'appelle Pays de Brocéliande.
Il paraît que de votre fenêtre, vous voyez la forêt ?
Oui, absolument. Bon. De là où je vous parle, il n'y a que du vert autour de moi. J'ai même vu un petit écureuil passer.
Ouais. On imagine bien que vous avez été bercé, biberonné,
oui.
Avec ces contes et légendes.
Oui, absolument. Mon père adorait me raconter, enfin on avait, vous savez, ces contes et légendes, ces albums illustrés, il adorait me les lire. Et c'était un ravissement pour moi.
Stéphanie, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur cette forêt de Brocéliande ?
Qu'est-ce qu'on ne sait pas ?
Ouais.
Oh, je ne sais pas ce qu'on ne sait pas, forcément. Mais je peux vous dire ce qu'on sait. En tous les cas, on essaye d'associer des endroits de la forêt à des moments mythologiques. Mmh. Alors après, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la part de vérité et quelle est la part de faux ? Évidemment, quand on va voir le tombeau de Merlin et qu'on se retrouve face à des mégalithes, on se doute bien que ce n'est pas le vrai tombeau de Merlin, parce qu'on sait que la fée Viviane a emprisonné Merlin dans des murs d'air. Donc forcément, il n'y a pas de tombeau.
Mmh. Quand on est gamin dans la région, quand on est enfant, y a des jeux de pistes qui sont organisés souvent dans cette forêt, non ?
Alors aujourd'hui, il y a des vrais jeux de pistes qui sont organisés. Quand j'étais enfant, c'était avec mes parents. Alors on avait ce guide de la Bretagne mystérieuse. Il n'y avait aucun panneau, il n'y avait aucune indication. Donc, on faisait très souvent chou blanc, à vrai dire. Hein. Donc on allait, et puis c'était vraiment pour le plaisir de la balade. Et je crois que c'est ça qui plaît aussi aux familles qui vont se balader dans la forêt. C'est que ça intéresse la marche, parce que les enfants souvent n'aiment pas tellement marcher. Et quand on leur dit on va voir la fée Viviane, on va voir Merlin, ou on va aller au château qui a vu grandir Lancelot du Lac, forcément ça intéresse les enfants.
Mais c'est tellement important de nourrir leur imaginaire en plus. Quand je vous disais il y a quelques instants qu'est-ce qu'on ne sait pas sur la forêt de Brocéliande, je vous attendais plus sur c'est peut-être bien de rappeler qu'effectivement c'est une vraie forêt, la forêt de Pimpon.
Ah, c'est une véritable forêt. Elle s'appelait forêt de Pimpon quand j'étais enfant, et comme il se trouve que c'est probablement le lieu de la forêt de Brocéliande, aujourd'hui on l'appelle forêt de Brocéliande, mais elle est tout à fait, c'est une grande forêt, c'est la plus grande forêt de l'Ouest. On y trouve des tas d'espèces d'arbres, et on y fait des balades, des randonnées merveilleuses. Et je pense que les gens qui sont à la recherche d'authenticité, même s'ils ne s'intéressent pas aux contes et légendes, ils trouveront leur compte, évidemment.
S'il y a un seul endroit à visiter dans cette forêt, s'il y a un seul lieu, ce serait lequel, à votre avis ?
Alors, ça dépend ce qu'on recherche. Si on recherche ces balades et cette authenticité, je dirais c'est le Val sans retour. Il y a une très jolie randonnée à faire. Donc ça, c'est plutôt côté Morbihan. Si on est très intéressé par les légendes, il faut vraiment aller au château de Compère, au centre de l'imaginaire arthurien, et le visiter. Et c'est là où on dit que Viviane avait son château sous le lac, et c'est là où elle a élevé Lancelot. Mais il faut de toute façon passer à l'office du tourisme de Pimpon, parce que les deux y sont liés.
Il y a la chapelle du Graal aussi.
Absolument, à Tréhaut-Renteuc. C'est très intéressant. En fait, c'est un abbé qui, pendant la guerre, l'abbé Gillard, a eu envie de lier sa foi chrétienne avec les légendes locales. Et il a fait cette église, de magnifiques vitraux dans l'église. Elle s'appelle l'église du Graal, le cycle du Graal. Et les vitraux mélangent à la fois des scènes du christianisme et des scènes du cycle du Graal.
Ça, c'est quand même assez extraordinaire, ça. C'est très spécifique à la Bretagne. Il y a presque qu'en Bretagne qu'on peut trouver cette espèce de syncrétisme entre la religion et la légende.
Oui, les deux se sont vraiment mêlés, parce qu'en fait, la religion est venue se greffer au 5-6e siècle sur des légendes qui étaient très vivaces. Et forcément, pour faire accepter la religion aux populations locales, il fallait les intégrer. Et puis, c'est une tradition, en fait, de mêler les deux. Et je pense que les gens, ils sont très, très, très attachés encore aujourd'hui.
C'est ce dont on parlait tout à l'heure avec la fontaine de Jouvence. On raconte que c'était un site druidique où on plongeait les enfants dans l'eau pour les inscrire sur un registre et pour leur donner, pour les dater leur naissance.
Voilà.
Ça rappelle quand même vaguement le baptême.
C'est déjà ça. Et en fait, c'est pour ça que ça s'appelle la fontaine de jouvence, parce qu'en fait, leur naissance était datée de leur baptême, et souvent, ça les rajeunissait d'un an.
Voilà.
On précise que, évidemment, si on n'est pas obnubilé par les histoires et les légendes, et la magie, etc., on peut juste aller faire de la marche, de la rando, profiter de cette nature qui est absolument somptueuse en Ille-et-Vilaine.
Absolument. Elle est belle en toute saison.
C'est dans le coin, il y a de la roche rose, non? Il y a un endroit où il y a de la roche rose.
Oui, alors partout, c'est-à-dire que c'est la pierre de la région, c'est le schiste rose. Et donc partout, vous allez escalader des endroits où vous aurez de la roche rose qui soit à fleurs, soit c'est vraiment une petite montagne. Mmh. Et tout ça est rose. Et quand au printemps, vous avez en plus le vert tendre qui pointe grâce à la pluie, plus les genêts qui sont jaunes, les ajoncs, enfin, tout ça est un mélange de couleurs très, 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 très beau.
Vous en parlez merveilleusement.
Stéphanie, est-ce que l'arbre d'or existe toujours ?
Oui, bien sûr, il existe toujours. Alors, l'arbre d'or, c'est une œuvre d'art hein, qui a été faite tardivement suite à l'incendie de la forêt par un artiste contemporain. Mais c'est magnifique à voir. Hein. C'est un arbre calciné qui a été recouvert de feuilles d'or et on le trouve dans le Val sans retour.
Stéphanie Janicot, je précise que votre prochain roman sort le 19 août, là, dans quelques jours. L'île du docteur Faust chez Albin Michel, qui raconte le mythe du Faust et l'histoire de son pacte avec le diable.
Voilà, exactement. Merci beaucoup.
Merci d'être venu dans RTL, vous régale, on vous souhaite un très bel été. À bientôt Stéphanie.
Merci à vous aussi, bel été à vous.
Et dans un instant, le grand jeu RTL. À tout de suite.
11h, 12h30, RTL vous régale, avec Jean-Michel Zeka. Cole. Le grand jeu RTL de l'été.
C'est maintenant le grand jeu RTL de l'été pour tenter de gagner un chèque de 1000 euros ou une semaine de vacances en famille dans un village VVF quelque part en France. Bonjour Karine.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, comment ça va ce matin?
Oh, très très bien, je vous entends, donc tout va bien.
Mais je sais que vous écoutiez l'émission ce matin en plus.
Oui.
Voilà, à Lioris dans le Calvados.
Voilà.
Et je dis souvent, dans RTL vous régale, on a les auditeurs qu'on mérite. Vous êtes secrétaire, mais dans quoi ?
Dans une fromagerie.
Et ben voilà, mesdames et messieurs. Voilà.
Les mission vrais fromages normands.
Voilà, les authentiques auditeurs d'RTL vous régale.
Quoi comme fromage ? Pour l'évêque ?
Pour l'évêque.
Ah oui, forcément, dans le Calvados, Livaro pour l'évêque.
Eh ben oui, et le Deauville, vous le connaissez ?
Ah.
Oui.
Moi, j'avoue que le Deauville.
C'est quand on a
quatre AOP. Je travaille dans la seule fromagerie qu'il fabrique.
Ah ben, on va en parler.
C'est quoi? C'est que ça a quoi comme spécificité?
C'est une spécialité. C'est un fromage assez doux, assez crémeux. C'est un fromage qu'on fabrique comme un Pont-l'Évêque au départ, mais qu'on affine comme un Livaro. C'est tout en douceur, tout en générosité.
Et comme quoi on peut être secrétaire, travailler dans l'administration, etc., dans les bureaux de la fromagerie, et savoir ce qu'on y fabrique.
Ouais.
Ah bah oui.
Et bien en parler surtout.
Oui, en plus.
Et puis être gourmande.
Carrément. Karine, je vous dis bonne chance.
Eh bien, merci beaucoup.
Parce que vous allez gagner un chèque de 1000 euros ou une semaine de vacances en famille. Pour ça, vous allez devoir choisir entre Bérénice Bourgueil, que vous retrouvez tous les jours sur RTL pour le grand quiz, ou Stéphane Rothenberg, son complice.
Ah, j'ai un petit faible pour Stéphane.
Je le voyais venir. Allez, vas-y Stéphane.
Vous avez eu raison de me choisir, car vous venez de remporter un super séjour de vacances pour 4 personnes dans un VVF. Bravo, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un agréable séjour.
Karine ?
Oui !
Une semaine en famille !
Ouais, j'entends ça, c'est super.
Alors, je sais que les enfants sont grands, hein, ils ont une vingtaine d'années. Est-ce qu'ils partent encore avec vous ?
Ah bah oui, là mon fils est parti avec nous une semaine, mon aîné en Corse, au mois de juin. Et
ben moi j'aime bien l'idée que quand on rentre de vacances, surtout en cette période, on y reparte.
Sinon je viens avec vous Karine, hein. Moi je suis dispo. Ah
mais pas de problème, nous on adore.
Une semaine en famille vers de nouvelles expériences de vacances dans un des 100 villages VVF en France. Vous allez faire de la rando, du paddle, du VTT, du cheval, du rafting ou alors... rien, parce que c'est votre choix. C'est vous qui allez décider. VVF, c'est là où tout commence. Choisissez votre destination sur vvf.fr. Merci d'écouter RTL. Bel été à vous et bonnes vacances, Karine.
Merci. Je fais un petit coucou à ma maman qui vous écoute depuis très longtemps.
Et qui s'appelle
Denise, 85 ans, Saint-Pierre-sur-Dive.
Bisous, bon, voilà. Denise.
La mère Denise.
La mère Denise.
Gros bisous à elle. À bientôt. prochain rendez-vous du grand jeu RTL de l'été tout à l'heure dans les grosses têtes de Laurent Ruquier. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 3210 ou en envoyant RTL par SMS au 74 900. Je vous souhaite bonne chance.
C'était le grand jeu RTL de l'été.
Un seul rêve à mes yeux, tant de destins et tellement de chemins, un seul instant là sous les yeux. Et puis qu'importe si tout s'efface au fond de moi, mais je le sais, tout est écrit au plus profond de l'éther. S'il est un monde où tout s'efface, il est en moi une vérité, tant de rêves où j'entends jouer cette terre. Et j'entends jouer cette terre. Si tout s'efface au fond de moi, mais je le sais, tout est écrit au plus profond de l'éther. S'il est un monde où tout s'efface, il est en moi une vérité, tant de rêves où j'entends jouer cette terre. Et j'entends jouer cette terre. Un peu de nous deux dans cette terre. Un peu de nous deux dans ce rêve à deux. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves et tellement de toi. Derrière chacun de mes pas, tellement de rêves de nous deux.
C'était Flo de la Vega sur RTL.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
Alcool.
RTL. 11h, 12h30.
RTL vous régale.
Et à l'occasion de la sortie de Kaamelott, le film d'Alexandre Astier, ce matin dans RTL vous régale, on vous emmène en forêt de Brocéliande. On va vous parler de cuisine médiévale. Ça tombe bien parce que Jean-Seb,
oui,
c'est un peu le roi de la cuisine médiévale.
Oui. Non, 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 commencez pas. Je suis absolument pas roi, il n'y a pas besoin de se lever.
Ça sert. Et vous savez, en plus, il y a plein de répliques cultes autour de la nourriture, ouais, dans Kaamelott. Mais je me suis. C'est, sans vous le ramener. La seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça une tarte.
Je suis fan absolu.
J'adore. Et alors, justement, cette cuisine médiévale dont on a toujours une image, on s'en fait une image négative. Ce qui est totalement faux. La cuisine médiévale, c'était une cuisine de goût, de saveur et de couleur. Ça, donc, c'était une cuisine extrêmement recherchée. Dans l'alimentation du Moyen-Âge, l'attrait des épices est absolument omniprésente. À cette époque, on nomme d'ailleurs épices tout ingrédient qui modifie ou qui améliore le plat. Ça veut dire le poivre, le safran, le clou de girofle, mais aussi les amandes, l'oignon ou le sucre. Les épices entrent dans la composition de tous les plats, des entremets jusqu'au dessert, en passant par les volailles, les viandes, les légumes. On peut faire par exemple un gâteau aux fraises et au safran. Ça, c'est des recettes qu'on retrouve dans des manuscrits anglo-normands.
Qu'il y a des assemblages parfois sur. Vous avez déjà participé à un dîner
absolument,
médiéval.
Absolument.
Ça m'est arrivé aussi. On mange des trucs surprenants quand
nous
même.
Nous avons Sieur Sauzin, par exemple, qui officie dans le restaurant qui est au Clos Lucé à Blois, à Amboise, pardon, fait une cuisine médiévale, donc une cuisine d'avant la Renaissance, une cuisine où il n'y a pas de pommes de terre, où il n'y a pas de tomates, puisque ça n'est pas encore arrivé. Et Sieur Sauzin fait un travail absolument remarquable. Il a cherché dans les grimoires, dans les vieilles recettes, et on mange quelque chose d'absolument génial. Vous allez boire de l'hypocrase.
Moi, c'est là que j'ai découvert le garum, par exemple.
Alors, c'est, en partie, l'hypocrase, c'est cette boisson à base de 7 épices différentes qui a un goût totalement particulier, parce que en plus, l'utilisation des épices était extrêmement étudiée, très maîtrisée.
Pour une raison particulière.
Non, alors ça ne servait pas à masquer la putréfaction des viandes, c'était vraiment par réel goût qu'on travaillait les épices. Et toutes ces épices étaient mélangées harmonieusement. La cuisine médiévale offrait beaucoup plus de 4 saveurs. Nous, on connaît salé, sucré, acide, amer. Eh bien, la cuisine médiévale en proposait 8. Parce que, par exemple, quand vous incorporiez du sucre, on avait la saveur sucrée. Mais quand vous ajoutiez du miel, on décrivait une saveur comme étant suave. Oh. Et la cuisine médiévale, enfin, c'était une cuisine de couleur. Le blanc, grâce au gingembre et à l'ail. Le jaune, les œufs et le safran, le vert, les herbes, le rouge, le tournesol. C'était élaboré, soigné, codifié, réfléchi. C'était beaucoup mieux que ce qu'on ne peut l'imaginer aujourd'hui.
Tout ce que vous avez pu imaginer sur le défi frigo n'a peut-être pas encore eu lieu sur cette antenne. Qu'allons-nous vivre dans quelques instants? Vous allez vite le savoir. Le défi frigo de ce matin, c'est dans quelques instants avec François à Cugan en Vendée. Bonjour François.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL. Il paraît que vous êtes au volant, là.
Oui, je suis conducteur routier dans le TP, mais je me suis arrêté.
Ah d'accord, très bien, je voulais m'en assurer. Juste en 10 secondes, pour annoncer l'enjeu de ce midi dans le défi frigo, vous allez nous proposer du...
magret de canard.
Du magret de canard, c'est une bonne idée, ça.
Ah, ouais.
Magret de canard, il y a eu du magret hier, en plus, avec la cerise. On va remettre le couvert aujourd'hui. Bon, très bien, on insiste. On tape sur le clou. Et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez RTL, il est midi. Les infos vous sont présentées par Sébastien Rouxel.
Et ça commence mal pour la France à Tokyo. Notre équipe de football olympique emmenée par Gignac et Thauvin vient de s'incliner 4-1 face au Mexique. Le coup d'envoi officiel des Jeux aura lieu, je vous le rappelle, demain avec la cérémonie d'ouverture. On en vient à la situation sanitaire en France. On est clairement sur une phase ascensionnelle des hospitalisations et des réanimations. L'avertissement d'Olivier Véran ce matin au Sénat. L'épidémie continue de gagner du terrain sous l'effet du variant Delta. Plus de 21 000 contaminations enregistrées en 24 heures, c'est une première depuis début mai. Le confinement n'est pas une option sur la table pour le moment, ajoute le ministre de la Santé. Dans le même temps, les débats autour du projet de loi qui doit notamment étendre le pass sanitaire ont repris ce matin à l'Assemblée nationale. Son examen a pris beaucoup de retard sur le millier d'amendements déposés. 200 seulement ont été débattus depuis hier. Les discussions, souvent tendues, se sont pourtant prolongées jusque tard dans la soirée. Les suites de l'affaire Pegasus et une réponse au plus haut sommet de l'État. Emmanuel Macron réunit ce matin un conseil de défense exceptionnel. L'un de ses numéros de téléphone figure parmi les cibles potentielles de ce logiciel espion israélien. Le président de la République prend très au sérieux cette affaire, assure le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Plusieurs pays utilisent Pegasus, le Maroc notamment, mais aussi l'Arabie Saoudite qui dément ce matin les accusations d'espionnage. Travaux, routes, aéroports, 9 millions de Français sont victimes de nuisances sonores. Elles engendrent stress et dépression dont le coût social s'élève à 155 milliards d'euros chaque année. C'est ce que révèle ce matin la dernière étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Lauriane Rossi, la présidente du Conseil national du bruit, sera l'invitée de Christelle Robière dans RTL Midi pour en parler. Rendez-vous à 12h30. Les contrôles aux faciès doivent cesser. 6 associations, dont Amnesty International, lancent aujourd'hui une action de justice inédite auprès du Conseil d'État. Elles veulent mettre fin à ces contrôles discriminatoires par la police. En France, un jeune homme perçu comme arabe ou noir a une probabilité 20 fois plus plus élevé d'être contrôlé, selon un rapport du défenseur des droits publié en 2017. La réactivité d'Orange a été insuffisante lors de la panne généralisée des numéros d'urgence début juin. C'est la conclusion du rapport commandé par le gouvernement. Il est dévoilé ce matin. Près de 12 000 appels n'ont pu être acheminés entre 16h45 et minuit le 2 juin dernier. 6 décès y sont potentiellement liés. La météo, c'est la bonne nouvelle du jour. Il fait toujours aussi beau. Quelques petits nuages inoffensifs vers les Ardennes et en montagne, mais sinon c'est grand soleil pour tout le monde. Attention tout de même aux crues. 4 départements restent en vigilance orange. L'Oise, l'Aisne, la Marne et les Ardennes. Côté température, on aura cet après-midi 25 degrés à Cherbourg, 26 à Lille, 31 à Lyon et jusqu'à 37 à Toulouse. Les courses, pour finir, elles ont lieu en nocturne à Longchamp. Les pronostics de Jordan Philippi, l'As, le 8, le 2, le 13, le 5, le 6 et le 14. Sa dernière minute, c'est le numéro 8, Assigned. RTL, midi et 3 minutes. On vous retrouve pour la suite de RTL. Vous régale, Jean-Michel Zeccar.
Merci Sébastien Rouxel et prochaines infos RTL. Tout à l'heure, à midi et demi.
11h-12h30, RTL vous régale.
Jean-Michel Zeccar, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
Mesdames et messieurs, vous êtes pile à l'heure pour le défi frigo de ce jeudi dans RTL vous régale. Avec François, qui est en Vendée, qui arrive avec du magret de canard. Il est là, tranquille, dans son camion. Il a une petite envie de magret ce midi. Dans le camion, ça va être compliqué, hein, François, à préparer.
Oui, c'est plus pour ce week-end, on va dire.
C'est quoi la cuisine des routiers, justement? Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais j'en vois parfois sur les parkings qui cuisinent, comme ça, au pied du camion, sur des petits barbecues.
Moi, je préfère aller au restaurant... le midi et surtout le soir, mais sinon j'emmène ma salade composée que je fais moi-même avec mes légumes et...
D'accord, vous prenez pas de risque particulier. D'accord, très bien.
Voilà,
bon, il y a Jean-Sébastien.
Juste puisque vous en parlez, Jean-Michel, et on n'en a jamais parlé dans cette émission, vous avez vécu un truc dingue sur les routes pendant le premier confinement. Parce que vous avez continué à faire des livraisons, vous avez alimenté la France avec... une infrastructure qui était devenue totalement inexistante. Ouais. Il n'y avait plus de restaurants routiers, il n'y avait plus de restaurants dans les stations-service. Tout ce qui était infrastructure de douche avait été fermé. Et pendant 7 semaines, vous avez nourri la France. Ça fait partie de la deuxième ligne et c'est formidable.
Ouais, c'est vrai.
C'est sûr. Après, on s'est adapté aussi. Donc, on a réussi. Adapter, mais bon, les douches et puis le restaurant, c'est vrai que ça fait une coupure dans la journée. Donc,
le seul avantage, c'est qu'il n'y avait plus personne sur les routes. Il n'y avait plus de bouchons.
C'était calme.
Là, on était au calme, hein. Franchement, on n'a pas été embêté.
On se sentait seul aussi.
Ouais. Tu parles. Bon alors, le magret de canard. Parce qu'il y a eu du magret hier. L'ingrédient, c'était la cerise. Si vous étiez là hier dans le défi frigo, Jean-Seb nous proposait sur la cerise du magret de canard, ce qui tombait à peu près sous le sens. Là où Louise prolongeait l'arnaque avec une volaille. Bon, et réussissant à gagner le défi frigo quand même. C'est ça qui était génial. Alors, du magret aujourd'hui. Deux fois. On commence avec qui? C'est vous qui décidez.
Avec Louise.
Ah ben voilà.
Alors François.
Est-ce que vous êtes prête, Louise? Une 30, c'est parti.
Moi je vais vous proposer, parce que c'est un petit peu vu et revu, le four, le barbecue, tout ça, donc je vais vous proposer un tartare thaï de magret de canard. Alors vous allez prendre votre magret bien frais, vous allez retirer le gras à l'aide d'un couteau bien pointu, donc surtout vous enlevez tout le gras. Vous allez ensuite poser votre main sur le dessus du magret et avec un long couteau, découper le magret dans le sens de la longueur. François, l'objectif, c'est d'obtenir des longues tranches plates. Vous allez recouper ces tranches pour faire des petits cubes. Ensuite, vous allez prendre du gingembre pour le côté un petit peu exotique et poivré. Vous allez l'éplucher à l'aide d'une cuillère. Vous connaissez cette astuce pour l'éplucher?
Oui.
Vous raclez
oui, oui.
avec votre cuillère pour avoir des petits morceaux de gingembre. Vous allez mélanger votre gingembre à votre magret de canard et constituer votre tartare à l'aide d'un emporte-pièce ou si vous n'avez pas d'un mug, d'une tasse. Hein, l'important, c'est que ce soit en rond, en cercle. Et par-dessus, vous allez ajouter un petit peu de coriandre ciselé, du sésame et un petit vinaigre d'agrumes si vous avez. Vous avez le tartare à côté, François. Qu'est-ce qu'on fait? Vu que c'est la saison, on va faire des petits abricots à la poêle au miel. Vous allez faire revenir dans une poêle bien beurrée vos quartiers d'abricots. Et au dernier moment, pour avoir la petite touche exotique, vous allez mettre un petit peu de miel. Et je peux vous dire, François, que vous allez m'en donner des nouvelles de ce tartare thaï de magret de canard aux abricots au miel.
C'est un tartare.
Elle était facile.
Un tartare de canard. François.
Oui.
Est-ce que vous mangez le canard cru?
Oh oui.
Bon, ça oui, passe. Oui. Je posais la question. Je posais la question. De... Non, c'est simplement parce que je trouve la recette audacieuse.
C'est vrai que c'est audacieux, oui. J'avais
voilà.
Pas pensé.
On en reparle dans quelques
Mais
instants.
Je suis sûr que vous êtes un homme audacieux.
Alors.
Jean-Sébastien, est-ce qu'on prend un risque?
Alors attendez, vous connaissez des chiffres et des lettres?
Bien sûr.
Voilà. Eh bien, comme dirait Bertrand Romenard, pas mieux.
Pas mieux.
Parce que j'avais pensé à peu près la même recette que je viens de réécrire.
Oh non.
À une vitesse absolument démentielle pour en faire d'un tartare thaï un tartare olympique.
C'est drôle.
Vous voyez,
c'est quoi un tartare olympique?
Un tartare olympique, c'est un tartare japonais. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des jeux olympiques.
Non mais c'est ça le rapport donc. Parce que je ne voyais pas le rapport avec l'olympisme.
Bah, c'est un tartare olympique. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez déjà taillé le canard, donc ça va m'éviter de vous l'expliquer. Je vais gagner du temps. À partir de là, vous prenez un oignon rouge que vous allez découper en tranches très fines et puis vous allez le mettre dans une casserole avec un peu de vinaigre de riz que vous allez faire cuire ça à sec dans votre casserole. Si vous trouvez des algues, des kombus dans n'importe quelle épicerie asiatique, vous allez les faire, vous allez les mouiller, puis vous allez les couper également finement. Vous prenez du pain de mie que vous allez passer sur la plaque de votre four, juste pour les colorer, ou dans un toaster. Vous allez coloré comme ça, et vous allez pendant ce temps faire mariner des jaunes d'œufs dans de la sauce soja. À partir de là, vous prenez votre magret, vous salez, vous poivrez, vous ajoutez les algues, vous ajoutez l'oignon rouge à votre tartare, vous mettez de la coriandre fraîche, un peu d'huile un peu d'huile de sésame, voilà. Et vous allez ajouter les jaunes d'œufs marinés à la sauce soja. Vous mélangez tout ça et vous avez un tartare japonais qui est absolument formidable. Vous servez juste ça avec un riz, soit un riz gluant, soit un riz japonais si vous en trouvez. Et vous avez un truc absolument suave.
Top, 1 minute 30, parfait. Faut aimer le tartare aujourd'hui. Si vous n'aimez pas ça, vous êtes mal barré.
Le problème, c'est que le magret, soit vous le faites griller et vous avez une sauce basilic, ça tout de l'intérêt dans la sauce, soit en tartare. Moi, je trouve que c'est l'été extrêmement intéressant. Ça change du bœuf. Et le magret cru, c'est formidablement bon. Quoi.
Bon, François.
Oui.
Thaï ou japonais? De toute manière, ce sera un tartare.
Dans tous les cas, ce sera un tartare et je vais le faire thaï.
Ah !
Donc, Louise.
Merci François.
C'est dingue ça. Expliquez-nous pourquoi.
Parce que c'est de l'audace.
Non mais pourquoi ?
Je sais pas, non. Ça me paraissait... Je préférais ou thaï ou japonais. Parce que les algues, j'ai peur de ne pas aimer ou...
Oui, voilà.
Ouais, donc,
voilà. C'est des algues qui vous ont mis dedans, Jean-Sébastien. Ouais. C'est ouais. Je m'en doutais. C'est le kombu. Vous allez gagner un défi frigo dans les prochaines heures, Jean-Sébastien. J'ai bon espoir. Et j'ai envie de vous dire, mieux vaut tartare que jamais. François, vous allez repartir avec une montre RTL ainsi qu'un guide du routard des éditions Hachette. Mais ce n'est pas tout. Nous allons placer votre prénom, François, dans le petit chapeau pour le tirage au sort de demain vendredi, car nous jouons cette semaine, je le rappelle, pour un séjour de 2 nuits pour 2 personnes au château de Dissay avec un repas au restaurant gastronomique. On fera une petite halte, on rangera le camion et si c'est vous le gagnant, on vous appelle demain, d'accord ?
Très bien.
Bonne
Merci
route,
François.
Soyez prudent et à bientôt, j'espère.
À
au revoir,
bientôt.
François. Je rappelle que pour jouer avec nous au défi frigo et pour vous inscrire, vous appelez tout de suite le standard d'RTL au 3210 ou vous envoyez régal par SMS au 64 900. C'est le tube d'un été, l'été 83. Michael Field, Moonlight Shadow sur RTL.
She couldn't find
Eight Shadow, les Michael Field sur RTL.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka.
RTL, toujours avec vous.
11h, 12h30.
RTL vous régale.
Au cœur de la forêt de Brocéliande, en Bretagne, aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de Kaamelott, c'est l'heure des petits conseils entre amis que devons-nous impérativement rapporter de ce voyage en forêt de Brocéliande. Elle se mange froide.
Oui, puisque c'est de l'andouille.
C'est de l'andouille de Guéméné.
Sur Scorff. Ça fait partie des produits de la terre de Bretagne. L'andouille de Guéméné, elle est véritablement identitaire. Elle se reconnaît dès qu'on la découpe, puisqu'elle se présente en cercle concentrique, les chaudins ayant été enfilés les uns sur les autres, du plus petit au plus gros. Le cœur que l'on trouve au centre de l'andouille, suivi d'une trentaine d'autres chaudins qui ont été saumurés, dégraissés, assaisonnés. Moi, ça fait partie, je ne vous le cache pas, de mes andouilles préférées.
Ouais, quel beau témoignage.
Ça. Hein, ça vous fait plaisir, ça vous fait chaud au cœur.
Hein. Vous savez que c'est pas mon truc, voilà, c'est tout. On va pas...
Ah si, c'est bon.
Il y a un gâteau étonnant aussi dans le coin.
Oui, le gâteau d'Hélène Jégado. Alors, c'est l'histoire d'Hélène Jégado, qui était une cuisinière travaillant dans les maisons bourgeoises rennaises et qui a servi pendant la moitié du 19e siècle en Bretagne son délicieux gâteau à ses hôtes. Mais Hélène Jégado prenait un malin plaisir à y ajouter de l'arsenic.
Quelle humoriste, cette Hélène.
C'était donc un gâteau mortel qui aurait fait plus de 60 victimes, faisant d'elle la plus grande sérielle killeuse de l'histoire.
C'était juste une frappadingue.
Complètement.
Elle a été guillotinée, non ?
Elle a été guillotinée en 1852 à Rennes. Mais depuis 2010, la maison Durand Chocolatier à Rennes a décidé de fabriquer, de commercialiser ce gâteau sans arsenic, hein, je vous rassure. Alors c'est un gâteau breton classique, hein. Dans la recette on retrouve du beurre, du sucre, auquel on ajoute un mélange de farine, d'amandes, de cannelle, de raisins secs, imbibé de rhum et de l'angélique confite de Niort. C'est un succès garanti parce qu'il s'en vend en moyenne une trentaine par semaine. C'est le best-seller de cette maison Durand à Rennes. Donc bon, Hélène Jégado, elle a peut-être tué des gens, mais visiblement son gâteau sans arsenic est pas mal.
Ouais, enfin, c'était pas gagné le succès de ce gâteau, hein. Parce que sans arsenic, ça n'a peut-être pas le même goût non plus.
Mais non, on ne le sentait pas justement, parce que c'était camouflé par l'angélique qui venait contrebalancer le goût de l'arsenic.
Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est mortel. Donc franchement, faites-vous plaisir. De la poularde au menu également ce matin, plutôt du chapon même.
De Janzé, absolument. Poularde et chapon de Janzé, leur réputation, leur renommée remonte au XVIIIe siècle, même si aujourd'hui il ne s'agit plus de la fameuse race noire de volaille rustique. Le jeune chapon, il est engraissé, il est élevé au blé et au maïs. Et c'est un beau chapon pour l'hiver de 4 kg, 4,5 kg pour les fêtes. Hein. Mmh. C'est une belle méthode d'élevage.
On voit voilà. Bien, ouais.
La qualité, monsieur.
C'est quoi cette confiture, cette espèce de confiture? Vous voyez, le pommé.
Oui, le pommé, c'est. Alors, c'est deux choses en Bretagne. Le pommé à Rennes, c'est une sorte de chausson aux pommes, c'est de la pâte feuilletée dans laquelle on met des pommes cuites entières ou en morceaux. C'est fin, délicieux. Et puis, il y a le pommé qui est une pâte très sombre, tirant sur le rouge-marron, faite à base de pommes, où en fait, on fait cuire dans des énormes casseroles en cuivre. Quoi, 2/3 de cidre pour 1/3 de pommes, des pommes qui auront été pressées pendant 2 à 3 mois, qui ont été empilées les unes sur les autres. Et donc, on les met dans ces gamelles et on fait cuire ça pendant 24 heures pour que ça réduise, que ça se concentre. Et ça donne cette espèce de confiture, de pâte confite. Je peux vous dire que sur une tartine de pain toasté avec du beurre de micelle. Vous étalez un peu de pommé comme ça, c'est un truc de dingue. Même moi qui n'ai pas été élevé en Bretagne, j'aurais été ravi d'être élevé
en
Bretagne avec ça.
On va parler d'un truc que j'adore aussi dans un instant, c'est l'hydromel. Stéphane Mordelès est avec nous, il est hydromélier. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour Jean-Michel.
Que le nom, je trouve que cette profession magnifique, vous êtes hydromélier. C'est beau quand même. La cave du Dragon Rouge, à Dinard, vous avez 7 hydromels différents. Il faut qu'on rappelle, d'entrée de jeu, ce que c'est un hydromel déjà.
Alors l'hydromel, en fait, c'est la plus vieille boisson alcoolisée que l'homme a ingérée dans sa vie, mmh. avant qu'il se sédentarise, qui commence à faire des cultures, notamment les céréales, pour d'abord faire du pain, mais ensuite de la bière, par exemple, ou les vignes, le raisin pour faire du vin.
On dit que c'était la boisson des druides, non ?
Ah, tout à fait. Ensuite, les druides, en fait, ont utilisé cette boisson qui est connue à travers le monde entier. Hein. De toute façon, dans tous les cas, à travers le monde, vous avez des abeilles partout. Et là où il y a des hommes, il y a l'alcool. Donc l'hydromel a toujours existé à travers le monde. On en trouve même encore aujourd'hui en Nouvelle-Zélande ou en Éthiopie. Mais la particularité de la boisson des druides, hein, c'est que les druides ont décidé un jour d'avoir un vin pour faire la fête au village, pour donner l'énergie aux combattants. Mais le malheur, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de vignes en Bretagne. Mmh. Et donc, ils ont utilisé la base de l'hydromel pour en faire le bonifier, un peu comme un vin, et le faire vieillir dans des tonneaux en fût de chêne, un bon vieillissement pour en devenir plus tard un vin.
Mais donc, pour être précis, la base de l'hydromel, c'est quoi ?
Alors, l'hydromel, comme le nom l'indique, c'est hydro, de l'eau,
voilà.
Et miel, du miel.
C'est une infusion de miel, en fait, quelque part.
Une fermentation.
Une fermentation, voilà, exactement.
Tout à fait.
D'ailleurs, ça goûte franchement le miel. Moi, je trouve ça fantastique. Je parlais du dîner médiéval auquel j'avais eu la chance d'assister. Oui. C'est là que j'en ai bu pour la première fois.
Très bien.
Voilà.
Très bien. On en est
ravis. Non, mais c'est un produit magnifique parce que ça vieillit, ça finit sa vie dans un tonneau. Et vous les affinez un peu, vos hydromels ? Comment ça se passe ?
Tout à fait. En fait, moi, mes hydromels sont vieillis dans des tonneaux en fût de chêne pour essayer d'en ressortir tous les arômes que le tonneau peut apporter. Ce sont des tonneaux qui ont déjà contenu un autre produit, notamment...
Du whisky ?
Voilà. Alors, sur la majorité de ma gamme, c'est des tonneaux qui ont contenu du vin. Et pour le fameux dragon, le Shoshone Dragon Rouge, qui, lui, est fini dans un tonneau écossais qui a contenu du whisky.
Ça se boit comment, en fait ? À l'apéro, en digestif, avec le repas ?
Alors je dirais que plus on en boit, mieux on se porte. Mais disons que c'est plus... Alors c'est vrai, en apéritif, avec un petit melon, un petit jambon, tout simplement. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le dragon en fin de repas avec des amis. C'est-à-dire que en fin de repas, à la place de sortir un alcool fort pour un digestif, on va avoir cette sensation que les arômes du tonneau d'écossais va apporter. Mmh. On aura une sensation d'alcool, mais on reste à 14 degrés. Donc on est très largement en bas en termes d'alcool.
C'est gentil, ouais.
En comparaison, le Porto est à 19. Et les eaux de vie sont à 40. Mais j'ai des gens comme des restaurateurs qui vont le proposer, notamment avec un plateau de fromage.
Ouais, sur les bleus notamment.
Exactement. Mmh.
Ça fonctionne pas mal du tout. Vous faites du chouchen aussi ?
Ah ben je fais 100% du chouchen. C'est du chouchen.
Non mais est-ce que ça bénéficie toujours de l'appellation chouchen ?
En fait, l'hydromel ? Alors, il n'y a pas vraiment d'appellation chouchen, malheureusement. Le chouchen, dans tous les cas, faut savoir que tous les chouchen sont des hydromels.
Ah d'accord, ok.
Mais tous les hydromels ne sont pas des chouchen.
C'est ça la différence, voilà, c'est ça.
C'est le process de fabrication qui est complètement différent.
D'accord, très bien. Voilà. Bah, merci d'être venu nous apporter ces précisions. On peut acheter ça directement chez vous ?
Alors, on a une petite salle de dégustation ici à Dinard. Et sinon, bien sûr, on peut retrouver tous mes produits dans les meilleures caves de la région, voire même à l'extérieur de la Bretagne, puisqu'on va même diffuser à Paris ou à Strasbourg. Et donc, tous les boutiques spécialisées, épiceries fines.
Goûtez ça, c'est une expérience étonnante. Stéphane Mordelès, hydromélier, merci. C'est la cave du Dragon Rouge, et c'est à Dinard. Merci Stéphane, à bientôt, bon été
merci
à vous.
Au revoir.
Le petit pas de côté de Jean-Seb dans un instant, qui nous emmène où du coup ?
En Bretagne.
À tout de suite, je suis surpris.
11h-12h30.
RTL vous régale. RTL vous régale.
Alors il est gentil Jean-Sébastien Petit-Demange, parce que le petit pas de côté en Bretagne, qui reste en Bretagne, oui. N'est pas forcément un pas de côté du coup.
Bah si.
Mais de côté de quoi ?
Bah de l'autre.
On quitte Brocéliande.
De l'autre côté.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que nous allons partir à Belle-Île.
Très bonne idée.
Ah. Pourquoi ?
Parce que Belle-Île,
hein ?
est une île de légende.
Comme disait Perceval, c'est pas moi qui explique mal, c'est les autres qui sont cons.
Ça va se régler, ça.
C'est sympa.
Ça va se régler. Je vous laisse 3 minutes, pas une de plus.
Qualificatif ostentatoire, mais pas usurpé, que Belle-Île. Parce que la légende veut que des fées de la forêt de Brocéliande jettent leur couronne de fleurs au large du golfe du Morbihan. 3 partirent avec les courants. Celle qui resta forma Belle-Île.
Voilà le rapport avec Conseillande. C'est la plus grande des îles bretonnes, Belle-Île, extrêmement belle, diablement somptueuse, irrémédiablement enchanteresse. Belle-Île, c'est une campagne étonnamment vallonnée et verdoyante. Des plages comme vous n'oseriez pas en rêver. Une côte sauvage et d'immenses étendues livrées aux ajoncs et aux goélands. Et des petits ports qui se faufilent comme ça dans le roc. Tout est beau. C'est presque exaspérant tellement c'est beau, Belle-Île. La pointe des Poulains, c'est craquant. Elle s'appelait avant Beggerpollens, qui signifie pointe des rochers isolés. Là, vous verrez le havre de paix où séjourna Sarah Bernhardt régulièrement pendant 30 ans. Et puis, on peut grimper au grand phare à 92 mètres au-dessus du niveau de la mer. 256 marches avec une vue qui va de l'Orient au Croisic. Port-Coton qui tire son nom de l'écume projetée qui s'élève avec le vent comme des touffes d'ouates. Monet a peint ce spectacle plusieurs fois. Un peu de farniente sur la plage des Grands Sables d'une beauté rare avec en toile de fond la verdure vallonnée et rayonnante. Et puis, il faut faire le sentier côtier, un des plus pittoresques qui soit. Il est d'une sauvagerie poignante, il ne cesse de plonger dans les vallons, de remonter, de contourner, de livrer des points de vue surprenants. Il faut quand même de belles chaussures de marche parce que les tongs, c'est moyen. Sauf pour ceux qui aiment les entorses. Car la chaussure de marche, ne l'oublions jamais, est à la randonnée ce que le vaccin est à nos vies. Du discernement.
Oh oui.
RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. RTL vous régale
avec Jean-Michel Zeka.
C'était magique, la forêt de Brocéliande. J'espère que vous avez passé une bonne fin de matinée avec nous dans RTL. Vous régale la magie qui va opérer une nouvelle fois demain avec Louise Petit-Renault, avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Nous serons de retour dès 11h. Rendez-vous en Haute-Corse. Vous écoutez RTL.
À demain.
Il est 12h.